7h à Paris, 5h à Dakar.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver ce 21 juillet. On va revenir et tenter de comprendre ensemble cette décision annoncée hier, ce demi-tour complet de la présidence sénégalaise qui apporte finalement son plein soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. On en parle avec notre grand invité Afrique ce matin, le politologue Papa Farah Diallo, et dans le journal dans une demi-heure. Bonjour Fabrice Le Grillet.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
D'abord à la une de cette édition, le Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre britannique a dévoilé ses ambitions pour son pays hier.
Et parmi les priorités d'Andy Burnham, la décentralisation et la réindustrialisation, il compte bien appliquer à l'échelle nationale ce qu'il avait mis en place lorsqu'il était maire de Manchester et redonner leur place au territoire.
10e nuit consécutive de frappes au Moyen-Orient.
Des bombardements américains sur plusieurs sites iraniens et toujours la riposte de Téhéran, tandis que les Houthis du Yémen annoncent la mise en place d'un blocus maritime de l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, le président du Liban, Joseph Aoun, doit lui rencontrer Donald Trump aujourd'hui. Au cœur de la réunion, l'accord signé entre le Liban et Israël qui aspire au désarmement du Hezbollah et au retrait des forces israéliennes dans le sud du Liban. Mais la situation reste tendue dans la zone à l'image d'un convoi humanitaire qui s'est retrouvé bloqué au cœur du conflit. Notre correspondante Amélie David y était.
Et vous en parlez, ce revirement au Sénégal.
Mais le pays soutient officiellement la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Annonce faite après la visite de l'ancien président à Dakar.
Burnham s'est donc officiellement installé dans le fauteuil de Premier ministre britannique.
Et il a aussitôt affiché ses ambitions, promettant les changements les plus profonds de ces 40 dernières années. Le 7e Premier ministre en 10 ans, que l'on surnomme le roi du Nord, veut notamment décentraliser et réindustrialiser son pays, mais aussi faire baisser le coût élevé de la vie. L'ancien maire de Manchester compte redonner au territoire leur éclat d'antan, Sidonie Gaucher.
Ce qu'on appelle ici la manchesterisation voulue par Andy Burnham est-elle possible à l'échelle nationale. Pour Christophe Aigret, architecte à Londres et à Manchester depuis plus de 40 ans, la décentralisation est une nécessité politique.
Nous sommes gouvernés par une bulle londonienne. Les ministres sont hors sol, déconnectés, ou alors ils ne sont pas intéressés.
Avec la désindustrialisation et la transformation des espaces en data center ou en hub financier, il estime que depuis les années 70-80, les territoires ont perdu leur fierté.
Il y a des endroits dans le nord comme Middlesbrough qui fabriquait des ponts, Sheffield qui fabriquait de l'acier, des couteaux, des fourchettes, et Birmingham qui fabriquait des voitures, je crois. Des industries extraordinaires.
Le nouveau Premier ministre va dévoiler un plan sur 10 ans pour redresser le pays qui met l'accent sur les industries des régions. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Andy Burnham qui a aussi dévoilé son gouvernement, un symbole notamment, Shabana Mahmoud, connu pour sa fermeté sur l'immigration, est maintenu au ministère de l'Intérieur.
De nouveaux bombardements américains sur l'Iran et toujours une riposte de Téhéran.
10e nuit consécutive de frappes, les États-Unis affirment avoir visé une série de centres stratégiques militaires iraniens. De son côté, Téhéran revendique notamment des attaques contre des infrastructures américaines au Koweït et à Bahreïn. Et les rebelles houthis du Yémen pro-Iran se mêlent à cette escalade. En s'en prenant à l'Arabie Saoudite, ils ont annoncé hier un blocus maritime menaçant notamment de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Riyad exprime sa plus ferme condamnation.
Le président du Liban, Joseph Aoun, est lui aux États-Unis.
Et aujourd'hui, il doit rencontrer Donald Trump, et ce alors que selon Washington, l'armée libanaise a commencé à assurer la sécurité de 3 villages du sud du pays. Premier test de l'accord signé entre le Liban et Israël et visant à obtenir le retrait des forces israéliennes du sud du Liban, ainsi que le désarmement du Hezbollah pro-iranien. Mais sur le terrain, la situation reste complexe. Un convoi humanitaire organisé par l'œuvre d'Orient devait notamment se rendre dans 3 villages à majorité chrétienne situés dans la zone tampon, coupé du reste du Liban depuis plusieurs mois. Village encerclé par les positions israéliennes et celles du Hezbollah, et un convoi qui s'est retrouvé bloqué. Amélie David y était.
Le convoi devait se rendre dans les villages à majorité chrétienne de Debel, Ain Ebel et Lwesh pour ouvrir des structures sportives et soutenir les habitants. Vincent Gelot, directeur de l'œuvre d'Orient au Liban.
Il y a certains villages qui sont aujourd'hui en partie détruits, notamment le village de Debel. Le bas du village et les maisons sont endommagées, parfois détruites et occupées par l'armée israélienne. Et donc l'avenir de ces villages reste très incertain. C'est pour ça que c'est important de les visiter, de leur apporter de l'aide humanitaire, mais d'être présent à leur côté pour qu'ils puissent les aider à tenir.
Plus d'une dizaine de journalistes étaient présents dans le convoi, mais après près de 5 heures d'attente, nous avons dû rebrousser chemin, n'ayant pas reçu l'autorisation du mécanisme et notamment de l'armée israélienne. Vincent Gelot.
Alors la raison qui nous a été avancée, c'est qu'on est dans ce déplacement, il y avait une partie qui était composée de l'œuvre d'Orient, il y avait aussi des journalistes, et a priori ça aurait été la présence de la presse qui aurait été l'une des raisons principales du refus de pouvoir accéder à ces villages.
Faute de pouvoir atteindre les villages, un appel a été organisé avec les habitants d'Ain Ebel. D'autres convois devraient être organisés prochainement avec l'espoir, cette fois, d'aller jusqu'au bout. Beyrouth, Amélie David pour RFI.
En Ukraine, Volodymyr Zelensky fait toujours face à un grand mouvement de contestation après sa décision de remanier le gouvernement.
Et les organisateurs lui ont lancé un ultimatum. Ils attendent des décisions de la part du président ukrainien cette semaine. Emmanuel Chaz.
À Kiev, la mobilisation ne faiblit pas depuis jeudi dernier. Lundi soir encore, la place Franka devant le palais présidentiel était noire de monde. La foule réclame toujours le retour de Mikhailo Fedorov à la défense et le départ d'Alexandre Siski à la tête de l'armée. Mais les organisateurs comptent aussi mesurer l'effet de leur mouvement. Olga, réfugiée en France depuis 2022 avec son petit garçon, est revenue pour les vacances, est venue tous les jours aux manifestations.
Après ça, on va prendre 3 jours de la pause pour vérifier et pouvoir aussi donner un peu plus de temps pour Zelensky. Qu'est-ce qu'il va faire? Et moi, j'espère qu'il va prendre une bonne décision, mais on ne peut pas être 100% sûr. Pour nous, c'est important d'être là, pour moi, évidemment, parce que c'est quelque chose qui peut augmenter de chances pour notre survivre de notre nation.
Valéria, étudiante, reste prudente sur d'éventuels changements.
Je l'espère vraiment, je n'en suis pas sûre en fait. Je l'espère sincèrement. En tout cas, nous sommes tous mobilisés pour que cela se produise.
Alors que Volodymyr Zelensky poursuit ses consultations avec les principales figures politiques et militaires du pays, les manifestations reprendront vendredi si aucune des revendications présentées n'a été satisfaite. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et notez que des bombardements russes ont fait au moins 8 morts hier en Ukraine, tandis que des frappes ukrainiennes ont tué au moins 6 personnes dans la région russe de Belgorod. Les conséquences de ces frappes menées par Kiev, nous en reparlerons dans notre journal de 7h TU avec notre correspondante Anissa El-Jabri. Elle revient d'Omsk en Sibérie, là où la plus grande raffinerie de Russie a été touchée par une attaque il y a 2 semaines.
RFI à Ziguinchor, 87.6 FM.
Et c'est à la une ce matin, ce revirement au Sénégal.
Oui, le pays apporte désormais son plein soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Annonce faite par le gouvernement hier, 3 jours après la visite de l'ancien président à Dakar. Bassirou Diomaye Faye avait jusqu'ici refusé d'apporter son soutien. Il change donc de cap et nous y reviendrons notamment dans Appel sur l'actualité tout à l'heure dès 8h10 TU sur RFI.
Au Mali, le JNIM accusé de crimes de guerre.
Les djihadistes liés à Al-Qaïda ont exécuté sommairement des soldats maliens qui s'étaient constitués prisonniers. Les faits se sont déroulés samedi dans la zone de Tabricha au terme d'une attaque menée conjointement par le JNIM et par les indépendantistes du FLA. Le convoi militaire visé était parti d'Anéfis à destination de Gao. Une 50aine de soldats maliens ont été tués, mais tous n'ont donc pas péri au combat. Et ces exécutions de prisonniers des armées constituent un crime de guerre, David Bachet.
Voilà l'industrie du crime qui prétend diriger le Sahel, réagit avec colère un notable de Kidal favorable au régime de transition. Sur des images diffusées par le JNIM, on peut voir des militaires maliens désarmés, assis ou allongés dans le sable, recevoir des rafales de balles. Parmi les djihadistes à l'œuvre, Hamza Aguiad, fils d'Iad Akrali, le chef du JNIM. De sources sécuritaires maliennes, 18 soldats maliens auraient ainsi été exécutés alors qu'ils s'étaient rendus et qu'ils étaient désarmés. Un crime de guerre selon le droit humanitaire international qui protège les civils, mais aussi les militaires prisonniers de guerre. Au total, l'attaque de ce convoi a coûté la vie à au moins une cinquantaine de militaires maliens. Elle avait été menée conjointement par les djihadistes du JNIM et par les indépendantistes du FLA. Mais ces derniers assurent que les combattants du FLA et du JNIM ont agi chacun de son côté, que c'est le JNIM seul qui a exécuté ses prisonniers et revendique avoir capturé pour sa part une vingtaine de soldats maliens environ. Sollicité par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite. Par communiqué samedi, l'état-major indiquait que des frappes aériennes avaient permis au convoi de se désengager des embuscades tendues et de poursuivre son itinéraire sans communiquer de bilan. Le convoi avait fini par arriver à Gao.
David Bachet.
Les droits de douane de Donald Trump sont de retour.
Oui, le président américain reprend sa guerre commerciale et s'en prend au Canada. Il promet d'imposer au pays 50% de surtaxe douanière sur une liste de produits, y compris sur certains protégés par les accords commerciaux entre les deux pays. Loubna Anaki.
C'était une question de temps. Ces derniers jours, Donald Trump avait multiplié les critiques vis-à-vis du Canada et il avait menacé d'imposer de nouvelles taxes douanières en raison de la sévère pollution de l'air qui a touché le nord-est américain, causée par les feux de forêt chez son voisin. Mais la Maison-Blanche assure qu'il ne s'agit pas de cela. Officiellement, la décision de Donald Trump est, je cite, « due à des pratiques commerciales discriminatoires de la part d'Ottawa ». Le président a usé d'une loi de 1930 en donnant l'exemple des restrictions visant les voitures et les produits laitiers américains, mais aussi le boycott par certaines provinces canadiennes de l'alcool américain, une mesure en riposte à la première salve de droits douaniers imposée par Washington en 2025. Le nouveau texte signé hier par Donald Trump concerne notamment les produits laitiers, l'alcool, le ciment, mais aussi des produits jusqu'ici protégés par l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique. Les 50% entrent en vigueur dans 30 jours, ce qui laisse le temps peut-être aux Canadiens et aux Américains de trouver des compromis, mais ces nouvelles mesures viennent compliquer une relation déjà très tendue entre les deux pays. Loubna Anaki, New York, RFI.
En Espagne, La Roja était de retour hier.
Avec plus d'un million de personnes dans les rues de Madrid pour assister au retour triomphal des champions du monde de football, vainqueurs de l'Argentine avec bien sûr la deuxième étoile sur le maillot, un immense moment de joie et une nation en pleine communion. François Musso y était.
Nous sommes tout près de la place de Cibeles, en face de la mairie. Le bus décapotable où se trouvent les héros espagnols de ce mondial est acclamé par une foule dense et enthousiaste. Sur le bus, on peut lire en anglais « Star ».
The long-term physical effects are not yet known. Have another drag and just get stoned. The short-term physical effects are so groovy. The more I smoke, the more I watch the movie. The long-term physical effects are not yet known. Physical effects are not yet known.
All your hope. Vous avez entendu le type sur la bande. Il faut qu'on les mette à nouveau. Il faut la faire revivre. Les gars, on a trouvé cette station de radio pour une bonne raison.
Ah ça oui, apprendre à faire le ménage.
Franchement, j'en sais rien. Vous pensez que les gens écoutent beaucoup la radio à notre époque?
Principe Actif. Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Ensemble, ce que je dis pas, j'en fais des comptines. Ensuite, on les chante ensemble. Eric Zemmour, c'est un hamad. cauchemar, mais qu'est-ce qu'il parle bien. Je peux pas m'empêcher d'être fier qu'il soit algérien. Vrai visage de l'homme est dans l'anonymat. Le moins bon d'entre nous, c'est être le meilleur. Capable du pire et du mieux comme Twitter. Je viens faire mon trou comme les boules au billard. Des choses qu'on t'apprend que tu comprends plus tard. Ils font pas des punchlines mais des blagues carambars. Dans la cabine, on t'y voit le cutter. On aime pas les arabes à part ceux du Qatar. J'ai croisé un flic, il était sympa, ça m'a fait bizarre.
Ça m'a fait tout drôle.
Il voulait ma carte et un autographe sur sa matraque. J'ai croisé Medine, je lui ai dit salam, il m'a dit bonsoir. Putain, y'a Younes. C'est chaud pour un feat. On verra plus tard. Le bâtard. V'là les problèmes. V'là les caméras.
Nous sommes le coup de patte de la Panthère en direct du 7-6, mon pote.
C'est moi, ton boss.
Younes, il n'y a pas d'instru. Il
n'y
a pas besoin d'instru, à Capella.
J'ai pas Capella. Je viens rendre fier ma vie. Et mon grand frère Eddy. V'là les problèmes. V'là les caméras. Cut la prod, mec. J'ai pas Capella. Je viens rendre fier ma ville. Et mon petit frère Nerly. Ici, c'est Roto Magus. Et Francisco Polis. Je suis rassuré depuis que j'ai su que le Père Noël est noir comme Jésus. Je suis beau comme un arabe qui s'accuse, comme une algérienne qui s'excuse. Les feux que ont remonté ma puce, je l'avais mis au nom de bismuth. Quand le français perd sa beauté, c'est tous les autres qu'il défigure. Demande à ton gosse de dessiner un terroriste ou bien un méchant. Y'a de fortes probabilités pour que le personnage me ressemble. Mais le taureau ne fatigue pas de porter ses cornes.
Jamais.
Et la nièce de Ben Laden vote Donald Trump. Oh my god, plus rien ne m'étonne. Mes diplômes, c'est le top album. Je rentre en cœur de désintox pour vendre aux clicos plus de dos. Je couperai pas la PlayStation, même quand Cheese Man perdra les os. V'là les problèmes. V'là les caméras. Cut la prod, mec. J'rai pas Capella. Je viens rendre fier ma ville. Et mon grand frère Eddy. V'là les problèmes. V'là les caméras. J'rappe à Capella. Je viens rendre fier ma ville. Et mon petit frère Nerry. Ici c'est Roto Magus. Et Francisco Polis. Younes Medine Borat Azamat.
Younes Medine Borat Azamat.
Medine Younes Sherba crème fraîche. Leur intérêt est ouvert de Jumra à Shabbat.
Oh la vache.
Mont-Sainte Marron Rouen LH.
Je n'accuse personne. Mais c'est tout de même curieux.
Ah ouais?
Ça a l'air, mec.
Ouais, c'était chaud.
Franchement, c'est un peu près de ça.